Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Je dois dire que je suis particulièrement heureux que cet événement ait lieu pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'œuvre et que je pense qu'elle doit faire l'objet d'un dialogue, d'une discussion, d'un débat. Aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a aussi une raison plus institutionnelle, puisque en tant que président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, je pense que c'est un événement précurseur, non pas que l'œuvre ait été conçue en ce sens, mais précurseur pour notre action, puisque en 2025, la Fondation va lancer un grand programme Océan. Parce que si évidemment l'actualité internationale n'est pas absente de l'idée de créer ce programme avec la conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice en juin prochain, et donc si aussi notre ambition est de participer à ce grand mouvement de protection et de développement durable des océans et donc participer à cet objectif noble mondial des ODD, hein, donc des objectifs de développement durable fixés pour toute l'humanité. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, je pense que cette œuvre le montre de manière très claire, un enjeu social, un enjeu économique, un enjeu politique aujourd'hui. Comme hier, lorsque Brodel écrivait la Méditerranée, puisque c'est notre père fondateur, un enjeu politique, économique et social majeur que les sciences humaines et sociales doivent adresser pour l'avenir, pour le présent, pour l'avenir, aussi pour le passé, dans les océans, la mer, les circulations qu'elles permettent et parfois qu'elles rendent fatale, puisque c'est un petit peu l'objet de ce dont vous allez parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler à la place des intervenants, mais je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous accueillir et je vais vous laisser faire votre travail.
Donc bonjour, bonsoir à toutes les deux. Félicitations pour cette bande dessinée. On peut dire bande dessinée, c'est l'appellation que vous préférez, Marion. D'accord. C'est bien d'avoir vu effectivement le film, y compris à deux reprises, parce que se rendre compte de ce que c'est que ce dessin très précis. Avec des, on en reparlera tout à l'heure, mais des coups de crayon ou des tracés vraiment par petites lignes qui, en s'amoncelant, forment des vagues, des visages, des objets perdus dans les vagues, un navire où ça semble parfois être un peu le bordel et en fait non, et de comprendre ce que une étape de ces vies de personnes en migration, une étape sur laquelle, en fait, je me faisais la réflexion, je crois qu'on ne s'arrête pas forcément beaucoup, parce qu'elle est sans doute en mer, donc plus difficile d'accès, parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas, là. On ne voit pas la police, les autorités, les journalistes, à quelques exceptions près, quand ils ont le droit de monter à bord. Donc, moi, en tout cas, voilà, j'ai découvert une étape que, voilà, on la connaît, on sait qu'elle existe, mais la voir un peu de l'intérieur, c'est pas si fréquent. Il y a parfois des photos, parfois des reportages, mais voilà, chaque médium apporte, enfin, a un peu ses apports et votre BD, voilà, y contribue. On essaiera de voir au fur et à mesure de quelle façon. Alors, pour commencer, Marimo, je vais vous présenter en quelques mots, parce que vous êtes graphiste, illustratrice, et que vous aimez ces projets d'enquête. Et vous avez notamment publié une autre BD qui s'appelait Les Mains Glacées, également aux éditions Antipode, où cette fois-ci, vous étiez parti au Groenland, mais sur un autre bateau, un voilier qui s'appelait Knut, et qui appartenait, celui-ci, à une association également qui s'appelait Marée Motrice, qui, si j'ai bien compris, conviait des artistes, des athlètes, des navigateurs à découvrir ce lieu pour essayer de le faire connaître, et notamment vis-à-vis des enjeux du réchauffement climatique. Alors, pour que vous puissiez présenter un petit peu votre travail, et parce que le parallèle m'a évidemment frappé, on a là deux BD enquêtes, toutes les deux sur un navire. Est-ce que cette répétition des formats était préméditée ?
Alors, pas du tout. Non, c'est un peu un concours de circonstances, mais qui maintenant m'associe définitivement à tout ce qui se fait sur la mer. Après, les deux projets étaient très différents. Le premier, en fait, c'était une résidence artistique. Donc, on avait le temps, c'était de la contemplation. Ben, déjà, au Groenland, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part les vagues. Les animaux, la faune, tout ce qui nous entoure. Et puis, on naviguait sur un petit voilier. Donc, pas de vent, on ne bouge pas. Enfin, c'était une immersion, mais dans le calme et la contemplation. Où là, en fait, j'étais partie pour dessiner, pour travailler. Tandis que le projet suivant, donc avec le Cheyenne Viking, ben là, j'étais projetée dans un monde d'urgence que je ne connaissais pas. Aussi le fait d'être avec des artistes à bord, il y avait une écrivaine enfin, sur le premier bateau, donc sur le Knut, le skipper est photographe, il y avait une écrivaine, un comédien et un artiste sonore. Du coup, on était tous dans nos projets en mode artiste, tandis que sur l'Ocean Viking, ben, en fait, chaque main compte. Donc moi, j'ai dû faire les formations à bord, j'ai dû aider l'équipage et puis en même temps plonger dans cet univers qui est l'urgentisme que je ne connaissais pas du tout. Et ce qui était le plus flagrant entre les deux voyages, c'est que pour ma manière de travailler, c'est des journaux de bord que j'embarque. Donc pour prendre le moins de matériel possible. Donc j'ai vraiment un carnet de bord que je remplis avec... Mes écrits, mes dessins. Le premier au Groenland est hyper joli. Calme, des dessins détaillés, l'écriture toute droite, sans pas beaucoup de fautes. Tandis que le deuxième, c'est des ratures, des dessins très vite faits, pas finis parce qu'il y avait une urgence à faire. Ou, en fait, à la fin de la journée, je devais m'isoler quelque part, enfin, sur mon petit bureau qui était à bord, et puis retracer tout ce qu'il y avait dans la journée. Et il y avait énormément de choses pour une novice comme moi dans ce milieu-là. Et du coup, c'est un peu ce qui ressort de différence entre les deux. C'est vraiment la contemplation du premier et l'urgence dans l'autre, mais en même temps avec aussi cette même... la contemplation, elle est aussi la mer, les couchers de soleil et les échanges qu'on a eus. C'est pas tout le temps de l'urgence, mais il y a toujours cette tension qui est là.
Oui, c'est ça, parce que du coup, puisque voilà, vous parlez du rapport entre urgence et contemplation maintenant, allons-y. Il y a beaucoup de dessins, on pourrait feuilleter, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, qui sont contemplatifs. D'abord parce qu'il y a eu de très jolies scènes à la fin quand tout le monde a débarqué, il y a quelques personnes qui restent et c'est l'occasion cette fois-ci de regarder la mer un peu plus tranquillement parce que la mission est accomplie. Mais tout au long de la bande dessinée, on scrute l'horizon et j'imagine que quand on est novice, qu'on n'a pas forcément les réflexes d'observation, qu'on est peut-être aussi dans un format de voyage inédit, on finit par se prendre par moments à trouver ça beau, alors qu'en fait... on est dans une situation en décalage un peu avec justement l'urgence, l'importance de ce travail humanitaire.
Je dirais pas que c'est de la beauté ou de la poésie. Je dirais plutôt que en fait on vit quelque chose de tellement humain que les moments qu'on passe, par exemple, je prends les couchers de soleil ou les levées de soleil parce qu'on en a beaucoup contemplé avec les autres secouristes. En fait, ça devient des moments calmes importants dans le quotidien. Et puis, c'était là aussi où on échange sur qui on est, qu'est-ce que l'autre facette du secouriste ou du médecin. Et puis, l'échange très humain par rapport au reste, où c'est toujours un peu en tension avec des entraînements, des situations de garde. Enfin, on doit observer si on voit des navires... être concentré. Enfin, c'est toujours dans le... Il y avait ce côté, en fait, très le care et le militaire qui se mélangent. Parce que dans le milieu marin, en fait, les gens sont assez carrés. Il faut tout contrôler, il ne faut pas qu'il y ait... faut pas laisser quelque chose de travers sur le bateau aussi. C'est tout est calculé, tout est rigoureusement contrôlé. Et puis, en fait, après, il y a le care qui rentre en jeu où, en fait, tout le monde fait attention à tout le monde. La première chose qu'on m'a dit quand j'ai pu embarquer sur l'Ocean Viking, c'est « t'as le droit de pleurer devant nous ou seul, mais t'as le droit de pleurer et puis faut pas t'en cacher, c'est normal. Ce qu'on vit, c'est dur. » Et du coup, moi, c'était... Enfin, voilà, je pense que ça, je l'ai eu à 10 minutes après avoir embarqué cette phrase. Et puis, elle reste encore actuellement. Voilà, quoi. Ouais.
On va y revenir à cette question du care. Mais si je reviens si je reste sur l'origine du projet, donc on le disait, hein, la BD précédente, le sujet était plutôt la question du réchauffement climatique. Là, on est sur un sujet totalement différent. Et vous racontez au début de la bande dessinée que vous vous documentez. Là, vous venez de dire que vous étiez novice dans ce milieu de l'urgence. Est-ce que vous étiez novice aussi en matière sur la question migratoire, comme on l'appelle au début, ou est-ce que c'était déjà un sujet qui vous questionnait beaucoup, sur lequel vous aviez eu l'occasion de vous renseigner ?
Alors, je suis une grande lectrice, donc je lis beaucoup. Et quand je me lance dans un sujet, en fait, je vais tout lire, tout regarder. Tous les récits de migration ou d'humanitaire, enfin, j'ai pu les côtoyer, en fait, depuis 3 ans. Et puis, au début du projet, quand j'ai pu avoir la confirmation que j'allais embarquer, c'était une situation où je suis un média à bord, comme je prends la place d'un journaliste. Donc, je devais attendre qu'il y ait une place qui se libère. Et cette attente, en fait, elle a pris 1 an. Donc, pendant 1 an, c'était un peu j'attendais l'appel, je me mettais disponible pour pouvoir partir. On me disait, ah, tu peux embarquer, dans 3 jours, faut que tu sois à Catane. Je te reconfirme ça dans 2 heures. Et puis 2 heures plus tard, on me disait, non, tu peux pas, il y a un problème, il manque un papier, il manque ci, enfin, n'importe quel prétexte. Mais c'était, à chaque fois, c'était un peu des pics d'adrénaline. Ah, ça y est, j'y vais. Et puis, en fait, non. Et du coup, pendant ce temps-là, moi, j'avais tout ça à disposition pour... prendre des mandats en tant que graphiste ou en tant qu'illustratrice pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ma place à bord, dégager du temps pour créer la bande dessinée après coup, parce que c'est un travail de 200 pages, donc là je l'ai fait en 9 mois. 9 mois sans prendre autre chose comme salaire. Donc c'était aussi ce temps-là pour faire des demandes de fonds et puis m'investir à fond dans le sujet. Et du coup, de me documenter. Donc moi, je suis arrivée là-bas, j'avais déjà un gros bagage de récits et de savoir sur le sujet.
Et avant ça, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter sur les sauvetages en Méditerranée ? Pourquoi cette étape-là du parcours de migration ?
Je voulais, en fait... au début du projet, je voulais m'intéresser à des témoignages de migrants, mais pas forcément sur une zone précise. Je pensais d'ailleurs pas partir de mon pays pour pouvoir me lancer dans un... Enfin, ou peut-être visiter des camps en Grèce ou autre. C'était assez évasif. Et puis, au final, en fait, comme j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur le parcours d'immigrants, des récits où on suit une personne qui va d'un point A à un point B et puis tout son parcours. Mais il y avait peu de récits sur ceux qui interviennent autour, ceux qui gravitent autour de cette problématique. Et puis, moi, c'était un peu ça qui m'intéressait. Et puis, quand on m'a évoqué l'idée de réembarquer sur un bateau pour pouvoir faire une bande dessinée, j'étais à 100% pour, quoi. D'accord.
Et donc, on l'a pas encore dit, ce trajet, il démarre le 2 février 2023. Vous partez de Syracuse pour ce qu'on appelle une rotation. Donc, c'est une boucle. Vous partez au large de la Libye et vous revenez le 18 au port de Ravenne. Donc voilà, vous avez 16 jours dans le... Non, je me suis trompé.
25.
Le 25. Ah, bah,
25 jours.
25 jours. Alors je me suis trompé quelque part. J'ai recopié la mauvaise date. au port de Ravenne. Et donc c'est le moment de Rescue Completed, comme le dit la BD. Donc c'est le...
Ah. Voilà. Je sais pourquoi vous vous êtes trompé. C'est juste que la mission, la rotation, elle n'était pas terminée à 16 jours. Ça, le 16e jour, c'est quand on a débarqué les rescapés à Ravenne. Mmh. Mais après, il y a tout le retour jusqu'à Syracuse. Voilà, moi, j'étais un peu frustrée parce que j'habite en Suisse et du coup, j'étais à Ravenne. C'est à quelques heures de train de la Suisse. Et on m'a fait retourner en Sicile pour que je reprenne l'avion pour rentrer. Donc c'était aussi... Mais après, j'étais très contente d'être restée à bord parce que c'est là où j'ai le mieux débriefé avec les équipes, en fait, ces derniers jours où justement il y avait moins de tension et tout le monde était beaucoup plus ouvert à discuter avec moi.
Et cette année 2023, d'après l'Organisation internationale des migrations, dans le monde, au moins 8565 personnes migrantes seraient mortes, au moins parce que c'est souvent sous-estimé par rapport à la réalité. Et dans ces 8565, ce serait au moins 3129 en Méditerranée, qui est la route migratoire la plus meurtrière. Alors, Stéphanie, je vais me tourner vers vous pour avoir votre sentiment de lecture, maintenant qu'on a posé un petit peu les raisons du projet et les grandes lignes. Vous intervenez notamment sur les médiations scolaires. Donc voilà, en tant que bénévole en général, que bénévole spécialisé dans cette question des médiations, comment vous avez reçu ce travail, cette bande dessinée? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué d'un côté et qu'est-ce qui vous semble le plus utile, si on peut le dire comme ça, dès maintenant, de l'autre?
Alors, cette bande dessinée, elle est juste extraordinaire. Ça reflète exactement ce que nous, on transmet aux élèves lors des sensibilisations scolaires. Donc, c'est un outil qui est pour nous formidable et merci encore de l'avoir fait. Ça nous permet de faire comprendre, en fait, aux élèves. On va le proposer au CDI, des établissements par lesquels on passe. Et ça va permettre en fait aux élèves de s'approprier un peu plus le sujet, c'est-à-dire de pouvoir le creuser par rapport à l'heure et demie ou deux heures d'intervention qu'ils vont pouvoir avoir en classe. Et ça, pour nous, c'est extrêmement riche. C'est une documentation qui va leur parler. On n'a pas toujours des documentaires qui leur parlent aux enfants, en tout cas. Et ça parlera aussi bien aux adultes.
Et alors, ça leur parle parce que c'est de l'image
Parce que l'image, oui. Parce que l'image et le fait que ce soit très précis dans ce qui se passe. C'est extrêmement bien documenté. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et tout ce qu'on apprend à l'association est réexpliqué. Donc, ça permet vraiment d'avoir cette compréhension de ce qu'on fait.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la lecture, c'est que moi, j'ai donné les chiffres, quelques chiffres, j'essaie de pardonner beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup non plus dans le livre. Est-ce que ça, c'est un atout quand on parle aussi à des élèves, de ne pas être trop dans la statistique, l'analyse, en tout cas pas explicitement? Et puis après, vous me direz si c'était volontaire et comment vous avez travaillé justement sur la transmission de l'info.
Alors pour les élèves, on est effectivement plus dans l'identité propre des personnes, plus que dans le chiffre. Donc on leur dit qu'on a sauvé plus de 41 000 personnes, mais ils ne se représentent pas 41 000. Mais de savoir qu'on a sauvé une petite fille ou un petit garçon de 1 mois, ça, ils se le représentent. Donc en fait, c'est plus l'identité même des personnes migrantes qu'on va parcourir. Et on a pour ça, nous, des témoignages de rescapés qui passent par le bateau et qu'on leur passe après sous forme d'images. Donc ils ont déjà, de toute façon, par l'image, ils ont déjà accès à pas mal de choses. Et donc là, encore plus par le livre.
Après, moi, pour En fait, dans le chapitre qui introduit le livre qui a été fait avant le voyage et qui n'a pas bougé, je pensais complètement le changer, mais au final, je ne l'ai pas changé. Je dis clairement que, en fait, quand on entend parler des migrants dans les médias, c'est souvent des chiffres ou des statistiques, des données, le camembert des victimes, de ceux qui ont réussi, etc. Et ça déshumanise complètement les personnes. En fait, pour moi, c'est ce qui était un peu le fil rouge conducteur de tout ce livre et tout ce travail. C'était vraiment genre mettre en valeur ces personnes, parce que en fait, oui, nous, on va dire, ben, on va les résumer au terme migrants. Ça, je crois que je le dis aussi au début du livre. Mais ça reste des femmes, des enfants, des familles, des jeunes. Là sur le sauvetage qu'on a fait, c'était des personnes, des ados. C'était des jeunes qui avaient entre 12 et 20, 25 ans. Et du coup, en fait, c'est des gens qui ont des rêves, qui ont des ambitions et qui sont là. Et moi, je ne pouvais plus, en fait, plus regarder ces médias où, en fait, on les résume qu'en chiffres, quoi. Mmh. C'était vraiment intentionnel de ma part de vraiment rendre ça le plus humain possible.
Oui, ce qui a donné lieu dans les phénomènes migratoires de la décennie 2010, pour faire vite après les printemps arabes, c'est à ce discours aussi du déferlement, parce qu'on voyait ces grosses flèches, souvent rouges, agglomérant des nombres de migrants directement d'un pays de départ vers l'Europe de l'Ouest, où on avait l'impression qu'ils débarquaient. Puis bizarrement, on oubliait aussi les flux des personnes en mobilité qui étaient dans les pays voisins ou déplacées à l'intérieur même des pays, dans les situations de guerre comme la Syrie. Dans le premier chapitre, donc du coup, j'apprends là dans la discussion qu'il avait été préparé avant. Il y a un aspect très didactique où vous évoquez certaines des causes de ces entrées en migration. Il y a le réchauffement climatique, la question des violences, la question de la famine, de la faim. Est-ce que dans les témoignages que vous avez pu recueillir sur l'Ocean Viking, tout ça s'est vérifié, c'est-à-dire que les catégories que vous aviez en tête justement sur ce travail avant n'ont pas bougé après. Je vous pose aussi la question parce que quand on lit aussi un peu en théorie là-dessus, on entend aussi souvent que les personnes qui entrent en migration, elles peuvent le faire aussi pour des motifs économiques, que c'est pas forcément les plus pauvres qui entrent en mobilité parce que il faut avoir des moyens financiers pour entamer le voyage. Et là, dans les cas que vous mettez en avant, on voit surtout celles qui sont dans les cas de difficulté les plus importants. Donc, est-ce que c'est ajouté par exemple cette catégorie là dans les échanges que vous avez eus ou dans votre enquête sur le bateau?
Alors moi, c'est ce que je disais avant, j'ai confirmé ce premier chapitre en ayant vécu à bord quelques jours avec ces rescapés qui me racontaient tous leur parcours. D'ailleurs, c'était très impressionnant parce que vu que j'avais un peu la place de la presse à bord, ils voulaient tous venir me raconter leur parcours. Et je crois que le premier jour où je les ai eus à bord, j'ai écouté 15 personnes me raconter des trajets et des histoires affreuses. J'ai dû mettre une limite après aussi au niveau de combien je prends par jour de témoignages, parce que sinon c'est intenable. Mais c'est clair qu'au début, ce premier chapitre, je l'avais vraiment fait. Je crois que c'est vraiment les 6 premières pages du livre. Je les ai fait vraiment 2 ans avant le voyage. Et c'est vrai que je pensais vraiment les changer, changer un peu ma formulation, pas forcément le dessin, mais faire comme faire autrement. Et puis en fait, c'était pas utile parce que c'est réellement ça. Là, c'était aussi spécial parce que moi j'avais un bateau, dans le sauvetage, comme je l'ai dit avant, c'était que des jeunes et il n'y avait pas de femmes à bord. Problème qui, pour moi, a vraiment posé plein de questions par la suite parce que je suis une femme, donc j'avais cette place aussi à bord parce que j'étais une femme. Et puis, dans mon travail BD, je suis assez, j'aime bien faire des parcours de femmes. Et du coup, j'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de femmes pour échanger avec moi. Après, il y avait la sage-femme et la médecin qui ont beaucoup, beaucoup parlé avec moi. Donc, tout ce qui est dans le livre vient de leur part, donc et du vécu quand même. Ça vient de leur récit, mais après... ouais, c'était pour moi un peu spécial parce que je voulais vraiment faire un chapitre dédié aux femmes et à ce Women Shelters qui est la pièce en fait à l'intérieur du bateau qui est réservée aux femmes qu'on accueille où aucun homme ne peut rentrer. Donc médecin, équipage, c'est uniquement des femmes. Donc moi en tant que média à bord, j'avais accès à cette pièce s'il y avait eu des femmes. Donc c'était aussi un point de vue pour moi très important du livre et il se trouve que le voyage que j'ai fait, il n'y avait pas de femme à bord.
Vous arrivez quand même à approfondir la question avec les rencontres avec la sage-femme qui, et la visite du bateau, enfin, en remettant aussi les lieux en place, ça a été j'imagine un moyen de quand même aborder le sujet.
Oui, et puis aussi de la part des rescapés, du coup, j'ai aussi un peu axé mes questions là-dessus. S'ils avaient eu des femmes, des sœurs un peu à bord, et ils m'ont aussi raconté des récits atroces. Et puis, par rapport à leur dire, ben, j'ai pu quand même creuser dans ce chapitre-là, qui était pour moi un des essentiels du livre.
Alors, vous avez du coup évoqué le Women's Shelter. Vous avez commencé donc à décrire les lieux du bateau. Il y a une planche dont j'aimerais qu'on parle, qu'on aperçoit, je crois, d'ailleurs, dans la vidéo du début. C'est donc une double page qui est une vue en plongée sur l'Ocean Viking. Où on voit plein de gens, plein de lieux. L'une des personnes qui vous présente le bateau vous dit c'est un immeuble flottant. J'aimerais bien savoir déjà comment vous l'avez dessiné, parce que j'imagine que on peut pas voir vraiment le bateau de cet angle-là.
C'est tout faux.
Ah. C'est vraiment de la fiction au niveau du plan et des places. J'ai juste pris les lieux importants et je les ai un peu... j'ai joué au Lego avec pour que ça rentre dans une planche plutôt graphique, mais qui représentait en fait que moi, je suis arrivée sur ce bateau. Mon premier voyage, il était sur un voilier de 15 mètres carrés. Je suis arrivée sur ce bateau, c'était une ville. Enfin, c'était un immeuble, quoi. Et du coup, les premières choses qui me sont arrivées, c'est que je me suis perdue. Parce que c'est tellement grand qu'au début, il faut s'approprier les lieux. Et puis, d'ailleurs, tout le monde se déplace avec une radio constamment. Et le truc qui revenait plus dans les radios, c'est location, où est-ce que vous êtes, quoi. Parce que du coup, même nous, on se perdait avec le bruit et toutes ces pièces, ces escaliers. Et après, il y a aussi quelque chose pour la protection du bateau et de l'association. Je n'osais pas forcément... en fait, les médias, moi, avec le dessin, j'étais un peu plus libre que des journalistes et des photographes, parce que le journaliste, par exemple, n'avait pas le droit d'aller dans la pièce commune qui était le salon avec une caméra ou un appareil photo. Et... moi, j'ai d'abord posé la question, est-ce que ça vous dérange si je vous dessine dans cette pièce ? Tout le monde était là, non, mais c'est bon, avec le dessin, je peux inventer des choses. Et c'est la même chose, là, j'ai inventé le plan pour ne pas donner trop d'informations qui pourraient être compromettantes, sans vraiment l'être, parce qu'on se dit, où est la salle d'opération ? Enfin, c'est pas... Pour nous, ça nous paraît anodin. D'ailleurs, moi, au début, je n'avais pas trop compris pourquoi. Je n'osais pas tout dire, mais c'est juste des questions de protection. Et du coup, je me suis servi de cette page un peu fictive pour plutôt représenter l'ambiance de ce bateau.
Et alors, ça vous a mis combien de temps avant d'avoir vos repères et de trouver ce bateau relativement familier ?
Ouais, c'était assez rapide, je pense. un ou deux jours après les lieux sont maîtrisés, quoi.
Et mis à part cette question donc de l'interdiction des caméras dans certains lieux, comment qui a le droit d'aller où ? Enfin, est-ce que ça marche par je sais pas par périmètre, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où les exilés qu'on a recueillis par exemple ne peuvent pas aller, ou alors inversement tout le monde est globalement autorisé à aller partout. Voilà, est-ce que c'est très très hiérarchisé, très très délimité ?
Alors oui, c'est délimité parce que ben, pour des raisons de sécurité en fait. Et puis ben nous où on loge, mange et dort, c'est pas à la même place que les rescapés. Mais c'est pour des questions de sécurité et puis aussi de pratique. Parce que si tout le monde est éparpillé sur ce bateau, on trouve plus personne. Y a même, ben, dans le livre, je le raconte aussi, on a vécu un petit ouragan. Un matin, on s'est réveillé et le message à la radio qu'on reçoit, c'est ben, ceux qui sont qui dorment dans les containers dehors, parce qu'il y a des espèces de dortoirs un peu éparpillés sur le bateau. Il faut que je vous rejoigniez les autres à l'intérieur avec les gilets parce que en fait il y aura des grosses vagues et puis c'était la tempête et tout se cassait à l'extérieur. Donc nous on devait rester à l'intérieur. Alors là j'imagine même pas s'il y avait des rescapés à bord avec nous, quoi.
D'accord. Donc, c'est... Okay. Stéphanie, vous êtes déjà allée vous sur l'Ocean Viking ou
pas ? Alors pas du tout.
D'accord.
Sur, on peut le visiter. Okay. Voilà, il faut aller à Marseille, il faut être là le jour où il est à Marseille. Mais sinon, pas du tout, parce que sur le bateau, c'est que des professionnels. Nous, on est bénévoles, il faut être marin sauveteur, il faut être équipe médicale ou journaliste. Mais on ne met pas de bénévoles, c'est trop compliqué.
D'accord. Et quel était votre degré de connaissance, ou quel est votre degré de connaissance de la vie sur ce bateau, sur ce qui s'y passe ? Parce que c'est quand même un élément... Vous l'expliquez, c'est un élément important du dispositif d'SOS Méditerranée. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît bien forcément quand on est bénévole ? Et est-ce que dans la bande dessinée, vous avez pris conscience de trucs ou découvert des choses du fonctionnement à bord ?
Alors, je n'ai pas découvert parce qu'on a eu la chance d'avoir des journalistes, notamment Abdassal, qui a fait un reportage en quotidien, où il a filmé vraiment à la fois le bateau, à la fois les sauvetages. Donc on a quand même une connaissance, on ne se représente pas bien la taille du bateau. Et c'est souvent ce que disent les bénévoles quand ils vont le visiter. Et il est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Mais on a quand même une bonne connaissance, on a une vidéo qu'on passe en scolaire qui est la présentation du bateau par une des filles qui travaille sur le bateau. Donc finalement, on a quand même beaucoup, enfin, on a accès à beaucoup de documentation qui font qu'on se le représente bien. Mmh.
Alors, moi, je vais vous poser une question très, très naïve, mais c'est ce que j'esquissais dans l'introduction quand j'ai dit on a l'impression des fois que c'est un peu le bordel. C'est vrai que quand on est étranger à tout ça, qu'on pense bateau d'une association humanitaire, etc., on a du mal à mesurer le degré de professionnalisme de l'organisation. Et justement, je crois que dans cette planche-là, justement, on voit l'espace machine à laver qui a l'air d'être en plein milieu. Surtout, donc, du coup, vous vous expliquez que c'est reconstitué. Donc, des fois, je me suis dit, ah ouais, quand même, on voit que c'est un peu bric et broc et qu'ils ne doivent pas avoir des moyens démesurés, quoi. Et puis après, on tourne la page et puis on voit ce que vous dites, bah, les radios, le professionnalisme extrême des opérations de sauvetage, on va en parler. J'aimerais bien que vous nous donniez un peu votre sentiment là-dessus. Quand on arrive, est-ce que c'est au contraire, enfin, est-ce que du coup l'impression que j'ai eue en tant que lecteur est absolument fausse, que tout est comme ça ? Est-ce qu'on prend conscience du fait que bah ouais, y a jamais assez de moyens pour mener ce travail ? Quelle image est-ce que ça renvoie quand on est vraiment sur place ?
Ouais, en fait, c'est comme dans tout milieu marin. En fait, c'est quelque chose. Le bateau, il doit être rangé de manière pratique. Donc forcément, des fois, ça a un aspect un peu... oui, il y a des gilets rangés, tchac-tchac-tchac, qui traînent à peu près partout, mais c'est pratique, ils sont là.
On en a besoin, quoi.
Voilà. Et puis, le côté des... Enfin, oui, il y a plein de choses là dans ce plan qui sont fausses, mais il y avait aussi plein de petits détails de ce bateau que j'ai passé des heures à dessiner dans mon carnet. Genre, tout à coup, il y avait un panier de basket. Au milieu du pont, il y a un panier de basket, ce qui, moi, en fait, me semblait un peu incongru vu qu'un ballon sur un bateau, c'est, voilà. Et puis en fait c'était plein de petits détails, ou bien il y avait des plantes vertes attachées avec des cordes. Et puis c'était un peu ces objets qui devraient pas être là, qui en fait, pendant la tempête, nous on s'est dépêché d'aller mieux attacher les plantes vertes.
Oui, on le voit d'ailleurs, c'est raconté dans la BD.
Mais après, moi, c'est vraiment, je crois, le milieu du bateau qui veut que ça soit un peu comme ça. Je pense que moi qui suis en Suisse, je fais pas mal de montagnes. Et en fait, c'était un peu la même ambiance chalet de quand on fait du ski rando. On a plein de matériel, mais en fait, on les range très pratique à pouvoir les choper vite fait dans le sac à dos, des trucs comme ça, quoi.
Et sur place aussi, vous êtes formé pour comprendre tout ça. Ça, j'imagine que ça va très vite. C'est quoi les règles d'or qu'on vous donne en premier?
Déjà les valeurs de l'association, quoi. C'est vraiment le agir, sauver des vies et récolter les témoignages. Mais après, moi, j'ai eu tellement d'informations en une semaine où vraiment j'ai appris à être marin sauveteur en une semaine. Mais en allant avec les médecins, donc on faisait des cours pour apprendre à faire des massages cardiaques, les premiers secours, comment se servir des couvertures de survie, comment soigner des brûlures. Moi, en tant que femme, j'ai reçu le classeur violence sexuelle à lire avant de faire le sauvetage, parce que c'est tous des points où on va être confronté et qu'on doit aborder, et que si jamais, par hasard, un rescapé me parlait de ça, je devais être capable de répondre quelque chose qui ne va pas le pousser plus dans son traumatisme en n'étant pas du tout au courant de comment on fait. Donc j'ai dû vraiment assimiler une quantité d'informations impressionnante, mais qui, en fait, moi, j'étais là pour ça, donc en fait, j'ai tout catalogué dans mon petit carnet, et puis même les termes nautiques en anglais. Moi, je suis de langue francophone, je connais pas le langage de la mer, et en plus, il fallait l'apprendre en anglais. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça, mais qui, au final, en fait, je peux me mettre dans la position de monsieur et madame tout le monde qui apprennent à être sauveteuses et qui me permettent de raconter mieux les choses. Et puis, par rapport à ce que j'avais le droit de faire ou pas, c'est l'idée que j'expliquais avant, que le dessin est subjectif. Le photographe, par exemple, a beaucoup de censure possible, ou le journaliste aussi, la télé, etc. Parce que du coup, ils peuvent pas forcément photographier les morts, ils peuvent pas photographier quelqu'un d'extrêmement blessé. Enfin, ils ont beaucoup plus de règles que moi, avec le dessin, je pouvais contourner. Et ça, c'était assez chouette. Et surtout aussi, pendant le sauvetage, j'avais pas d'appareil photo ou de radio ou d'outils pour filmer et prendre en photo. J'avais vraiment mes mains. J'allais pas dessiner sur un canot de sauvetage, quoi. Donc c'était aussi un peu une partie qui, moi, m'a permis de participer à la mission pleinement, quoi.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que bien que observatrice ou sur une des places presse, en fait, on participe aux opérations de sauvetage.
On participe, mais en même temps, pas participer, ça me paraît impossible. On est là, on est des mains qui servent, et puis en fait... comme elle l'a dit avant, sur le bateau, c'est que des professionnels, que ce soit médecin ou marin. Et du coup, c'est normal d'aider aussi. Et ça fait partie de la mission, quoi. Ouais.
Non, c'est évidemment normal, mais encore une fois, et puis peut-être que vous pouvez raconter un peu ça, quand on va vraiment, le moment où on va porter assistance à une embarcation qu'on a repérée, c'est extrêmement technique. Chacune doit savoir quel est son rôle. Il faut savoir comment que le ne pas effrayer l'embarcation parce que les gens qui sont dessus ne veulent pas savoir si c'est les autorités, une ONG, enfin voilà, qui s'approche. Il faut surtout éviter qu'il y ait une collision entre l'embarcation et le bateau. Enfin, il y a des tonnes de choses qui semblent nécessiter justement un temps de formation que vous n'avez pas. Moi, ça, j'ai trouvé ça... À votre place, j'aurais eu l'impression qu'une masse de responsabilités, peut-être du coup, qui m'aurait empêché d'agir, ça serait abattu sur mes épaules. Voilà.
Mais en fait, j'étais avec des gens super qui m'entouraient et qui étaient là au cas où moi, j'avais une faille. Mmh. Et ça, au début, ça m'a fait un peu peur. Bon, après, j'avais toujours le choix de dire non, je ne vais pas. C'est pas du tout dans ma nature, donc moi, je vais dire oui à fond, à tout. Mais dans l'idée, en fait, le temps d'arriver sur la zone des sauvetages, en fait, c'est un temps qu'on prend pour s'entraîner. On a fait des entraînements de nuit. On a fait, enfin déjà rien que l'équipement, le mettre, l'enlever, on l'a fait 5-6 fois avant d'avoir le vrai naufrage, enfin le vrai sauvetage. Mais du coup, c'est quand même des gestes, en fait, à force de les faire, eh ben, ils deviennent naturels. Et puis, je pense qu'on est aussi dans une bulle où on se dit, ben voilà, en fait, il faut que ça fasse ça, je fais ça, et puis ça marche, mais il y a toujours quelqu'un qui check. Ce que je fais, je checkais aussi que les autres, ils aient bien croché leur truc. Enfin, tout le monde prend soin de tout le monde à bord, quoi.
Oui, donc le soin n'est pas que des sauveteurs vis-à-vis des sauvés.
Non, non, tout le monde est hyper à l'écoute. Et puis, c'est ce que prônaient, en fait, les sauveteurs. C'est, en fait, si la situation est trop chaotique, c'est l'équipe nous, avant tout. Parce que si on est blessé ou si on tombe à l'eau ou autre, on ne peut pas sauver des vies. Donc c'était aussi une hiérarchie dans qui sauve qui. Donc mais qui, en fait, a du sens parce que c'est... Puis même, en fait, moi, je me suis retrouvée sur le canot qui va à la rencontre des bateaux avec Eric qui est un marin sauveteur qui a fait du théâtre et qui du coup s'exprime extrêmement bien, mais son discours il est travaillé et refait, et même nous quand on les entraînait, ben il le refaisait après quand je lui dis ah il faut que tu me le mettes mot pour mot dans mon carnet pour pouvoir après le mettre dans la BD, il était... D'ailleurs, il était hyper content, puis il en a fait des tonnes. Mais c'est avec ses gestes, avec son visage, avec sa voix, ben, en fait, on se dit, oui, ben, en fait, il est gentil et il va nous sauver. Donc, OK, on écoute, on est calme. Et puis, en fait, moi, j'étais entourée de gens comme ça, quoi, qui savaient ce qu'ils faisaient et qui étaient là au cas où.
La langue avec laquelle on communique à ce moment-là, c'est donc des gestes et c'est l'anglais.
Sur le sauvetage, ouais, au moment du sauvetage, alors ça peut être l'anglais, ça peut être le français, ça dépend qui il y a sur le bateau, ouais, à sauver.
Donc on arrive à se rendre compte assez vite de ce qu'il faut, de la langue qu'il faut parler.
Souvent on trouve quelqu'un à bord qui traduit pour les autres. Mm-hmm. D'ailleurs aussi après coup, quand il y a les soins à bord, il y a souvent des rescapés qui prennent le lead au niveau de la traduction.
On a un médiateur culturel aussi, un ou deux médiateurs culturels par rotation qui permettent d'avoir un maximum de langues possibles. Donc entre le médiateur culturel, le français et l'anglais, on y arrive toujours.
Et est-ce que justement, puisque les cultures sont différentes, il y a aussi, à la fois dans les pratiques et dans l'organisation du bateau, on a parlé là des moments où il est nécessaire de séparer les femmes et les hommes, mais est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques pour prendre en compte telle ou telle spécificité ou pas ?
Non, en fait, on est vraiment là pour sauver les gens, donc on les sauve. Après, s'ils ont besoin de faire leur prière, ils vont le faire. Il n'y aura pas du tout d'entrave, il n'y aura pas de choses comme ça. Mais la mission, elle est vraiment de sauver les gens. Donc, voilà. D'accord. On sauve quel que soit.
Alors, une fois les personnes sur l'Ocean Viking, il y a une phase nouvelle du care que vous évoquiez au début. Là, pareil, je voudrais bien qu'on en reparle en termes de ce que vous avez appris et ce qu'il a fallu mettre en place, parce que vous reproduisez une affiche qui est assez parlante, que j'avais marquée tout à l'heure, mais évidemment j'ai perdu la page. C'est un enfant qui tient dans ses mains un poisson de façon très protectrice, mais le slogan dit « The fish is unsafe », puisque forcément il est à l'air libre, et donc elle a beau essayer de faire ce qu'elle peut, elle est en train de le tuer. Donc en gros, faites attention à la façon dont vous pratiquez le care. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses à ne surtout pas faire, que spontanément on se mettrait à pratiquer quand on est dans cette phase-là?
Il y a des choses toutes simples où on devait prendre une distance par rapport au rescapé, pour nous aussi psychologiquement. Et puis après, pour eux, par exemple, on devait éviter de se comparer, notre vécu avec le leur, parce que déjà, ce n'est pas comparable. Et puis, ça ne va pas aider, quoi. Ça peut être des petits gestes ou des mots. Enfin, de toujours être plutôt dans l'écoute que de revenir à soi, quoi. C'est vraiment, on est à l'écoute plus que... On est à l'écoute aussi de leur discours, mais on est aussi à l'écoute de leur santé. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui souffre un peu en silence, on va aller voir ce qui ne va pas. Mais c'est un rôle qu'on prend. Il y a des limites, quoi, qui sont très, très fines et qu'il ne faut pas dépasser, quoi.
Et qui sont difficiles quand, comme vous, c'est ce que vous disiez au début avec les gens qui ont voulu aussi venir vous voir pour témoigner, quand votre rôle est là pour documenter. Donc, vous voulez recueillir des informations. Donc, c'est potentiellement contradictoire avec cet enjeu de la distance.
Ben le rôle d'observatrice qui, en fait, participe est compliqué à manipuler, enfin, à prendre. Parce qu'en fait, on est toujours dans l'action, mais aussi dans l'observation, quoi. C'est...
Moi, je suis étonné de ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, pour poursuivre sur le fait que les gens les personnes tenaient très vite à vous faire part de leur parcours, parce que on lit beaucoup de témoignages, mais qui sont plus tardifs dans les biographies de ces personnes, qui est que une fois arrivés en Europe, on leur demande tellement de raconter leur parcours, mais sous l'angle du contrôle, parce qu'elles vont aller en CADA, elles vont passer devant la cour pour avoir le droit d'asile, etc., qu'en fait, elles n'en peuvent plus de raconter. Et là, inversement, il y a un besoin de le faire, visiblement.
Je pense que c'est aussi le soulagement d'être avec quelqu'un qui aide. C'est le fait que... Enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine... nous, on est là en tant que personne qui se... Il y a un sauveteur qui avait une théorie super par rapport à ça, où il disait, nous, SOS Méditerranée, où les gens à bord de l'Ocean Viking, on est un sparadrap. En fait, du moment où les rescapés ils arrivent sur le bateau, on va essayer le plus possible d'être avec eux, de leur rendre une humanité, de les écouter, de les soigner s'il y a besoin. Et puis, de pouvoir un peu qu'ils aient ce moment de calme, un peu cette pause dans le parcours qui soit le plus humain possible, en fait. C'est la même chose dans le livre. Je parle des music sessions qui sont le soir. En fait, on leur mettait de la musique ou bien ils jouaient de la musique. Et là, par la danse, on oublie tout ce qui va mal et on passe un super moment. Puis après, le moment il est fini, on retourne à nos... Mais c'est comme leur présence sur le bateau, en fait. Après, en Italie, ils débarquent, ouais. et ça fait tout de suite un vide, mais on leur a dit au revoir, quoi. Mmh. C'est un peu un moment, en fait, qu'on soigne le moment où ils sont sur le bateau, on le soigne.
En fait, on dit souvent que c'est une parenthèse d'humanité dans leur parcours migratoire. Ouais. Parce qu'on sait qu'après, ce sera moins dangereux, mais que ce sera tout autant difficile.
Oui. Ce qui, d'ailleurs, le paradoxe, c'est que quand on arrive, on dit qu'ils sont dans un lieu sûr, alors que c'est là où commence une autre phase qui, effectivement, va être des fois tout aussi dangereuse qu'avant, parce qu'ils vont potentiellement traverser à pied des zones frontalières compliquées et certains mourir, hein, la frontière des Alpes entre l'Italie et la France, par exemple, et que l'enfer administratif de l'évaluation du contrôle ne fait que commencer, en réalité.
C'est ça. On sait bien qu'une fois qu'on les débarque, le parcours est extrêmement difficile. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a autant envie de leur offrir cette parenthèse en fait entre le sauvetage et le débarquement.
Et pour poursuivre ce qu'on disait sur les témoignages, vous qui justement, j'imagine, les utilisez pour faire comprendre aux élèves de quoi il s'agit. C'est quoi l'éthique du recueil et de la diffusion des témoignages SOS Méditerranée? Comment on fait pour être sûr qu'on s'immisce pas, qu'on ne récolte pas le témoignage de façon un peu trop abusive, qu'on n'en dit pas trop aussi pour préserver l'anonymat, l'intimité
voilà. Alors l'anonymat, il est protégé. Déjà, on ne montre pas de vidéo. Ou alors vraiment, si ils sont dans le cadre d'un reportage, il faut qu'ils aient donné leur accord, etc. Et on change leur prénom et ils nous racontent vraiment ce que eux ont envie de nous raconter. En fait, on se base sur ça. Les trois missions de l'association, comme on parlait tout à l'heure, Marimo, c'est vraiment sauver, protéger, témoigner. Donc sauver et protéger, c'est ce qui se passe sur le bateau, c'est les ramener sur un port sûr. Et témoigner, c'est vraiment on leur explique en fait que on veut que les gens prennent conscience du parcours qu'ils ont fait et de tout ce qu'ils ont traversé. Donc en fait, ils sont très contents de nous donner tout ça, puisqu'ils savent que derrière, ça sera utilisé à bon escient. Mais on les protège, on protège leur identité, évidemment.
Alors Marimo, dans ce recueil de ces vies, vous disiez tout à l'heure que le carnet c'était rempli. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est le travail sur les visages. Parce que ce soit d'ailleurs les migrants ou l'équipage du navire, vous montrez qui ils sont, les portraits sont précis. Je parlais tout à l'heure de la finesse du trait, il y a vraiment du détail. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé. Tout est à partir de croquis dans le carnet de bord. Est-ce qu'il y a quelques photos aussi? Et puis pourquoi aussi, j'imagine un peu la réponse, mais je vous pose quand même la question, pourquoi ce besoin aussi de montrer comme ça les visages?
Alors, c'est marrant parce qu'il y a montrer les visages. Et puis par contre, moi, à la sortie de cette BD, il y a plein de monde qui m'ont dit « t'en dis pas assez sur les gens ». Moi, j'ai dû trouver ma limite. Comment raconter les choses sans trop aller dans le voyeurisme. Et puis, pour ces visages, en fait, vu que avant on parlait de le terme migrant qui résume en fait toute une population qui est en mouvement. Eh ben, moi, j'avais envie. C'est des humains. Donc, en fait, je vais soigner mes traits pour être au maximum représentatif de qui ils sont. Par contre, au niveau de leur identité, j'ai mis dans les témoignages des faux noms, avec des informations en fait qui résument, parce que ces témoignages, en fait, j'en ai récolté, je pense, une vingtaine, une trentaine, mais il y en a huit qui sont les mêmes, qui sont quasi les mêmes histoires, avec la traversée du désert dans la Jeep, le travail forcé en Libye. Enfin, c'est des parcours qui sont c'est des parallèles. Après, moi, j'ai pris un échantillonnage de ce que j'avais recueilli. Et la même chose pour les sauveteurs. Souvent, on me demande mais pourquoi t'en as pas dit ? Moi, j'ai envie de connaître plus ce personnage. Mais en fait, moi, je voulais pas rentrer dans un. En fait, je voulais m'intéresser à la cause, à la problématique, et puis vraiment rendre au courant de cette humanité qui se passe sur ce bateau. Et puis le fait de rentrer plutôt dans la vie privée des sauveteurs ou des médecins, ça m'intéresse, enfin bien sûr ça m'intéresse, bien sûr j'ai posé plein de questions, mais ça m'intéressait pas de les mettre en image après, parce que c'était pas le but du livre. Et je voyais ça un peu comme un peu du voyeurisme. Si je l'avais fait, j'aurais dû trouver quelque chose un peu plus réfléchi. Mais après, ben, bien sûr, il y a les croquis. Je me suis beaucoup basée sur les croquis. Par exemple, la page sur la lessive, ça, je l'avais dessinée un peu telle qu'elle dans le carnet. Mais après, j'ai eu beaucoup d'accès aux photos du photographe qui était à bord avec moi. Et puis après, de la part de l'association, ils m'ont aussi donné accès à toute leur base de données. Et, où là, ben, j'ai vraiment pu aller rechercher les gens ou les parties du bateau que j'avais le droit de faire. Et puis la fin de mon livre, en fait, je mets les portraits de tous les sauveteurs, sauveteuses et médecins, médiateurs, tous les gens à bord qui sont avec, enfin, les équipes. Et au début, je voulais mettre leurs prénoms dessous, puis après j'ai enlevé.
D'accord.
Parce que je me suis dit, non, mais en fait, eux, ils savent qui ils sont, et puis ça ne regarde pas les autres de savoir qui est qui.
Ouais, alors, l'ouvrage, il documente donc très, très richement cette phase du parcours, et bon, en le lisant, j'ai beaucoup comparé avec d'autres lectures que j'ai pu faire, alors qui concernent d'autres lieux. Hein, pour donner un exemple, un livre des sociologues Didier Fassin et Anne-Claire Defossé qui ont publié en janvier dernier un livre sur la frontière justement alpine entre l'Italie et la France, où ils ont passé de mémoire 4 ou 5 ans d'enquête avec plusieurs phases d'observation. Un livre sur les femmes en migration d'une géographe qui s'appelle Camille Schmoll, Les damnées de la mer, vous avez dû lire, qui a passé des années d'enquête dans plusieurs lieux auprès de femmes de plein de parcours migratoires différents. Et donc, voilà, cet exercice, on va dire, de comparaison, je trouve que ça documente, comme je le disais tout à l'heure, une étape de façon très riche. Mais la différence, c'est que vous, vu la façon dont ça se passe, vous n'avez droit qu'à un seul voyage. Est-ce que cette impression d'être de passage, pour vous, elle est problématique? Est-ce que vous en gardez, je sais pas, une frustration, l'envie de savoir plus, l'idée que quelque chose est inachevé ou pas?
Oui, je pense. Je pense pour 25 jours, pour un livre de 200 pages, c'est pas beaucoup. Et puis, en fait, les moments moi, que j'ai vécu à bord étaient hyper forts. Et du coup, tout à coup, c'est stoppé. Tout à coup, après, j'ai gardé contact avec les gens sur le bateau, mais les secouristes. Mais du coup, c'est quand même très frustrant, en fait, de se dire « Ah, en fait, pour moi, le voyage, il est terminé. » D'ailleurs, le livre de « Les damnées de la mer » m'a beaucoup, beaucoup servi pour justement raconter ces histoires de femmes. Et puis aussi pour comprendre... J'avais pas envie d'amener un livre qui commence par le voyage, mon voyage à bord. J'avais besoin en fait qu'on raconte pourquoi les gens y partent, mais aussi comment ça se fait qu'il y ait ce bateau en mer Méditerranée et que ça soit pas les États qui gèrent. Du coup, j'ai eu besoin aussi de regarder qu'est-ce que c'est Frontex, qu'est-ce que c'est la migration, qu'est-ce que c'est Mare Nostrum. Il y avait plein de... En fait, mon livre, il pourrait faire 400 pages, hein, parce que je voulais raconter beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, le but, c'était vraiment sensibiliser les gens à la base. Alors, je ne l'ai pas du tout fait pour une lecture enfant-jeunesse, mais il se trouve qu'il est quand même dans les mains des enfants de temps en temps. Et c'est vrai que j'ai vraiment fait une recherche approfondie de tout ce que c'était pour moi, pouvoir après m'approprier le sujet mieux et vraiment le faire qu'on comprenne le mieux possible pourquoi ce bateau, il est là, quoi.
Merci beaucoup.
Déjà, on va vous remercier toutes les deux à nouveau. On peut vous applaudir.